Did you know there are now 8 different ways in which you can listen to your favorite programs on CIUT? From Barrie to Buffalo, Kitchener to Coburg, you can pick us up on 89.5 FM. We also stream online at www.ciut.fm, on Rogers Digital Cable, Channel 946, Channel 970 on Bell 5 TV, Star Choice Satellite offers CIUT on Channel 826, and you can pick us up on the TuneIn Radio app and under College and Campus Radio on iTunes. Finally, you can listen or download CIUT program archives at CIUT.fm. CIUT 89.5 FM, delivering the new sound of your city everywhere.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Les 24 heures du roman, une aventure littéraire et ferroviaire présentée par Écriture en Mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Écriture en aventure avec 24 écrivains dans un train de vie à rail. Ensemble, ils écriront, certains diront que c'est en lisant qu'on devient liseur. De Halifax, Montréal et Toronto, le 400e en Ontario, un parcours de mots. Les 24 heures du roman, un voyage hors du temps. Le 23 octobre 2015, 24 écrivains, incluant des franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens, ensemble, ils vont explorer l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Tout au long de 2015, sur les traces de Samuel de Champlain en Ontario. Les 24 heures du roman, une expérience à la croisée de plusieurs cultures. L'écriture en mouvement, un concept inédit. Les 24 heures du roman, en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, VRI, le Consulat général de France à Toronto, Potpourri Show CIUT 89,5 FM. Les voyages en train chez VRI offrent une occasion unique de découvrir l'histoire, la nature et la culture et de se reconnaître mutuellement. N'attendez plus, inscrivez-vous, participez à nos jeux concours et qui sait, vous courez la chance d'être à la fête. Pour tout savoir, pot.pourri@simpatico.ca. Bonne chance et bon voyage.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Adrabenakusa, dingy dong,
dingy
dong. Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Émission spéciale, hommage à Charlie Hebdo. Nous sommes tous Charlie. Une émission présentée et préparée par Eric Kader et DJ Devera. En partenariat avec Radio France Internationale, France 24, le département d'études françaises, Université de Toronto. Mes collaborateurs, co-animateurs aujourd'hui, professeur Pascal Melucci et docteur professeur Daniel Issassaye. Partenaire, le Consulat général de France et Charlie Hebdo Rassemblement à Toronto. Hashtag. Face à la barbarie de l'attentat contre Charlie Hebdo, l'équipe de Popourri, Popourri Show, appelle à la solidarité. Soyez parmi nos invités tout au long de cette émission. Écrivez-nous à pot.pourri@sympatico.ca ou vous pouvez nous joindre au téléphone en direct 86 946 7000. Les auditeurs, amis, partenaires, collaborateurs, étudiants, professeurs du département d'études françaises, Université de Toronto, se mobilisent pour faire entendre leur voix à la suite des attentats commis contre Charlie Hebdo et de l'hypermarché Cacheur de la Porte de Vincennes à Paris cette semaine. Soyez parmi nous tout au long de cette émission. Vous pouvez aussi nous joindre sur facebook.com/popourrichaud ou encore par email pot.pourri@sympatico.ca. Et oui, mesdames, messieurs, après l'attentat meurtrier qui a visé mercredi et jeudi l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher de la Porte de Vincennes à Paris, la France est sous le choc. Une tragédie de 53 heures, un bilan humain très lourd, 17 personnes abattues de sang-froid par des terroristes, soit 12 personnes mercredi 7 janvier à la rédaction de Charlie Hebdo. Une policière lundi en banlieue sud de Paris et 4 personnes vendredi dans un supermarché à la Porte de Vincennes à Paris. Les 3 terroristes, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, sont morts lors des 2 assauts lancés simultanément par des troupes policières d'élite. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, des peuples se mobilisent et il y a des marches un peu partout dans le monde, à Paris, une marche républicaine avec des grands de ce monde et en toute sécurité, sous haute surveillance. Vous pouvez l'imaginer, à Toronto, un groupe de citoyens français et canadiens organise un rassemblement en hommage aux victimes françaises du terrorisme ce dimanche 11 janvier à 14h sur la place de l'Hôtel de Ville, Nathan Phillips Square, 100 Queen Street, si cela vous intéresse. Un registre de condoléances a été ouvert au public au Consulat général de France à Toronto, au 2 Bloor, la rue Bloor Est, c'est dans leurs locaux. Et vous pouvez également adresser vos messages de solidarité, de sympathie à l'adresse suivante, presse@consulfrance-toronto.org, ou allez encore sur le site web du Consulat général de France de Toronto pour tout savoir. Depuis l'attaque de Charlie Hebdo, de multiples incidents émaillent le territoire français sans qu'on sache s'ils sont en lien ou non avec l'attentat de cette semaine. Ayant admis des failles dans la sécurité, les autorités françaises devront encore répondre aux interrogations qui se font jour après jour sur la prévention du terrorisme en France. L'heure est au recueillement et non pas à la polémique. Je dis bien, l'heure est au recueillement et non pas à la polémique. Mais en tant que professeur, académicien, citoyen responsable, militant pour les droits de la personne, de la liberté de presse, de la parole, on peut et on doit se poser des questions sur notre avenir en tant que société. Sommes-nous condamnés à changer de cap et à nous taire? Doit-on s'auto-censurer? Est-ce que notre monde devient de plus en plus intolérant plutôt? Comme enseignant aujourd'hui, comment faire pour parler de certains sujets qui risquent d'offenser nos étudiants de religion musulmane, par exemple? En tant que parents, quel message à nos enfants? D'autres nous ont écrit, aujourd'hui c'est Charlie Hebdo, demain, qui sait, ce sera la décapitation des personnes gays ou les djihadistes extrémistes musulmans qui n'aiment pas des autres ou des personnes qui se ressemblent pas à leur mouvement ou à leur pensée. Donc, devons-nous pas les éradiquer? Là, je reprends explicitement ce que quelqu'un m'a envoyé avant qu'ils nous tuent. Voilà tant de questions reçues par les auditeurs de Pot-Pourri Show. On voit que vous êtes vraiment très frappés par cette incidence, ces attentats en France. Et vous aussi, madame, monsieur, vous pouvez alimenter cette émission spéciale composée le 416-946-7000. Pour m'aider à animer cette émission spéciale, madame, monsieur, je suis touché par la présence des professeurs Pascal Michelucci. Merci beaucoup. Vous êtes directeur du département d'études françaises à l'Université de Toronto.
Bonjour,
merci.
Eric.
Merci d'être là. Professeur Danielle Issa-Sayeg, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, elle est toujours avec nous depuis de belles lurettes. Je ne sais pas si je devrais faire des jeux de mots, si on a le droit de faire des jeux de mots aujourd'hui.
Mais oui. Bonjour Eric.
Professeur Danielle Issa-Sayeg, qui est directrice adjointe au département d'études françaises à l'Université de Toronto. Merci d'être là. Et puis nous avons un jeune organisateur français qui devait être avec nous mais qui nous écoute et qui est déjà sur place à l'hôtel de ville de Toronto. Son nom c'est Florent Guérard. Il est arrivé ici il y a 6-7 ans environ comme PVTiste et aujourd'hui, spontanément, il s'est lancé depuis mercredi dans une organisation qui prend de l'ampleur et il est l'organisateur principal de cette marche à l'hôtel de ville de Toronto, madame, monsieur, qui se déroulera à 14h et vous pouvez aller sur hashtag Je suis Charlie Toronto pour tout savoir. Donc, qu'est-ce que cela vous a fait? Où étiez-vous d'ailleurs? Parce que toujours quand il se passe un événement mondial, après plusieurs années, nos amis, nos parents ou nous-mêmes, on se réveille un jour et puis on dit « Ah oui, je me souviens, on célèbre aujourd'hui cet anniversaire et je me souviendrai toujours où j'étais quand cela s'est produit ». Professeur Pascal Melucci.
Moi, j'étais à la maison, tout simplement, en train de travailler, et j'ai eu une alerte sur mon téléphone, et j'ai vu tout de suite qu'il se passait quelque chose d'assez inhabituel, qui a de plus en plus pris de l'ampleur, qui avait l'air de plus en plus terrible au fur et à mesure que la journée avançait. Et donc, on a pris finalement le bilan vers début d'après-midi. Charlie Hebdo était complètement décimé, donc ça a été vraiment une tragédie pour moi.
Professeur Danielle Issa-Sayeg.
Moi, j'étais à la maison aussi, mais je l'ai appris par ma famille de France qui m'a téléphoné de suite pour m'informer de ce qui se passait. Et donc, bien sûr, je me suis branchée sur les réseaux français en live sur Internet pour voir ce qui se passait. Et comme Pascal, j'ai eu le triste constat de voir que les choses prenaient de l'ampleur et étaient beaucoup plus sérieuses que ce que je pensais avoir compris.
On se replonge, madame, monsieur, pour ceux et celles qui ne sont toujours pas au courant, parce que ça peut arriver. Il y a des gens qui sont coupés complètement de l'Internet. Est-ce possible aujourd'hui dans ce monde? Ou coupés de la télévision ou encore de la radio ou des médias? Voici un extrait de ce qui s'est passé.
Il sort. Baissez-vous.
Êtes-vous encore?
Et là, c'est des journalistes ou des gens du bureau de Charlie Hebdo qui étaient avec tous les dessinateurs, les grands dessinateurs, parce que là, on parle ici des gens qui ont beaucoup de talent, hein, bourrés de talent. Et il y en avait d'autres qui ont été un peu plus chanceux. Ils ont pris les escaliers, ils sont montés sur le toit. Et un des journalistes ou bien un des membres de ce groupe a pris. Et aujourd'hui, avec le téléphone portable, on peut faire beaucoup de choses. Hein, et ça peut aussi nous aider aujourd'hui pour alimenter, si vous voulez, une enquête. Et ce monsieur a eu l'idée de prendre son portable et de filmer cet événement qui a fait le tour de la planète. C'est fort.
Oui, le plus frappant, c'est que c'est dans une rue résidentielle de Paris, pas dans un quartier où on imagine des formes de guérilla urbaine comme cela, et des tirs groupés, nourris. C'est vraiment incroyable d'avoir cette irruption de la violence dans l'espace de vie de tant de gens. Et en plus, cette atteinte à la liberté d'expression, à la presse, à la liberté de parole, qui est tellement ancrée dans la culture française.
On entra tout à l'heure dans les détails de ce que disent les médias à travers le monde. Nous allons reprendre des réactions de monsieur et madame tout le monde. Il y a aussi des auditeurs de Potpourri qui ont envoyé des messages de condoléances, mais aussi leurs réflexions. Et des fois, c'est assez touchant. Alors, cette émission, madame, monsieur, c'est la vôtre. C'est une plateforme, genre de plateforme pour réagir et aussi apporter peut-être des réponses, des perspectives positives, je l'espère, pour avancer, faire avancer les choses. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons avoir exceptionnellement le consul général de France qui est actuellement à Paris, en cette marche monstre. On me dit qu'il y a plus d'un million de personnes, avec plus de 60 ou 70 chefs d'État à travers le monde. Et toujours, ces gens ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, il faut bien se rappeler. Et là, de voir des gens bras dessus, dans la main, marcher. Comment expliquer, professeur Issa Sayegh, cette montée, cette unité, cette marche républicaine, comme on indique un peu partout à travers les médias? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce qu'il fallait prendre un événement comme ça pour rassembler le monde et les grands de ce monde?
Malheureusement, c'est le constat qu'on fait qu'effectivement, il fallait un tel événement pour rassembler le monde. Mais je tiens à vous signaler, peut-être c'est passé inaperçu, mais en Allemagne, cette nuit, le journal qui a publié les caricatures de Mohamed a été attaqué aussi. Il n'y a pas eu de victimes, donc je veux dire, nul est à l'abri de ce genre de malheur ou de terrorisme. Donc il faut être très vigilant. Vous avez au Moyen-Orient, au Liban, Daesh qui a fait un massacre aussi à Tripoli. Donc tous les pays sont concernés. C'est plus le fait de l'Europe, de l'Occident, mais même le Moyen-Orient est aux prises avec ce terrorisme. Et je crois que c'est les premiers affectés. Et je dois dire que j'ai été très touchée ce matin en entendant un jeune Tunisien avoir dit, avoir fait le voyage spécialement cette nuit pour assister à la marche. Et je trouve que c'est beau, c'est symbolique, mais c'est émouvant aussi parce que c'est pas simplement politique, c'est tout le monde se sent concerné et tout le monde réagit à sa façon. Et ce jeune Tunisien a fait le voyage, le déplacement pour être...
Et Dieu sait que la Tunisie vient de sortir d'une impasse politique, une crise politique très difficile. Et les gens ont l'espoir quand même avec le nouveau président qui est en place. Mais je pense que les gens réfléchissent sérieusement sur la liberté.
Je crois qu'il y a une prise de conscience à partir du moment où le sol, le territoire du pays où on vit est atteint. Je pense que les gens se mobilisent très naturellement. Tant qu'on avait les talibans en Afghanistan qui faisaient exploser les statues du patrimoine millénaire, ça se passait au Nigeria, on envoie des petites filles chargées de bombes,
oui. dans les
marchés. Ça paraît lointain, mais quand la violence vraiment frappe au cœur de l'espace où on vit, on est menacé directement et on ne peut pas ne pas réagir.
Alors, nous aurons Monsieur Jean-François Casabonne, Mazonave, qui est consul général de France, qui est dans la marche républicaine à Paris, sera des nôtres, madame, monsieur, vers 11h30, si tout va bien, par la magie de l'Internet et des communications. Professeur l'essayiste sénégalais Souleymane Bachir Diagne, je pense, qui est quelque part aux États-Unis actuellement, je pense, qui sera des nôtres grâce à nos confrères à Radio France Internationale et France 24. Monsieur Gérard Poupé-Hill, qui est le président des Français du monde à Toronto. Vous pouvez aller sur leur site pour tout savoir. C'est un organisme qui n'est pas encore très connu dans notre communauté, mais qui accueille surtout les nouveaux arrivants venant de France, mais qui veulent travailler aussi avec toutes les associations francophones sur notre territoire. www.fdm-to.ca. Percy Iptang, qui est un artiste, politicien tantôt, artiste, enfin il fait 36 000 choses et il fait surtout la promotion des artistes méconnus de l'Afrique francophone ou anglophone et qui est venu à Toronto présenter d'ailleurs lors de nos festivals Afrofest il y a quelques années des artistes qu'on ne connaissait même pas de l'île de la Réunion, de l'île Maurice. Il sera des nôtres, il nous écoute sur Internet. C'est un homme très vivant et très impliqué dans ce débat. Et puis le professeur Eli Bouraoui, poète, nouvelliste, universitaire et fondateur du Centre Canada Méditerranéen. centre du Maghreb, à l'université York depuis quelques années, et lui aussi il a été profondément choqué, ému, et il sera des nôtres vers la fin de l'émission. Nous avons Élise Mignot qui est une Française qui travaillait pour le gouvernement français et maintenant elle est à l'île Maurice parce qu'elle aime beaucoup ce paysage mais aussi l'île, les gens, la culture, et elle est la fondatrice de Porteurs d'Images et du festival Il Court à l'île Maurice. C'est un festival de films créoles francophones, alors je trouve ça formidable, et elle aussi elle organise des manifestations sur le territoire mauricien pendant toute cette semaine et elle sera des nôtres si tout va bien parce qu'il y a un décalage de 9 à 10 heures entre l'île Maurice et Toronto. Et à l'île Maurice, il fait actuellement 31 degrés Celsius.
Il y a un décalage aussi dans les températures.
Décalage horaire.
Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure de ce jeune qui s'appelle Florent Guérard, que je ne connaissais pas du tout, et tout d'un coup, il est voilà à la une des manchettes de nos journaux. Et il est français, né à Lyon. Il y a beaucoup de Lyonnais d'ailleurs ici. Ce sont des restaurateurs, des gens d'affaires, mais aussi ils sont nombreux et ils aiment beaucoup Toronto. Et Florent est ici depuis 7 ans et il est arrivé comme PVTiste. Et puis il est tombé en amour, comme on dit bien chez nous au Canada français, de ce pays, de la neige, de la température et des gens, du multiculturalisme et tout ça. Il veut plus partir et il est avec nous. Bonjour Florent.
Bonjour.
Alors comment ça va?
Ben aujourd'hui ça va bien.
Oui.
Un peu occupé avec l'organisation mais ça va.
Très bien. Ben vous êtes actuellement en contact avec deux professeurs, Pascal et Daniel de l'Université de Toronto, qui vous écoutent et je pense ils ont des questions à vous poser. Comment est venue cette idée mercredi soir de lancer, de regrouper tous les Français et les francophones de la région de Toronto autour du Consulat général de France pour rendre hommage à ces victimes de Charlie Hebdo?
Je pense que ça a été vraiment un choc pour nous d'apprendre la nouvelle. Donc, on s'est vite regroupé sur les réseaux sociaux pour en discuter, pour savoir s'il y avait quelque chose qui allait être organisé. Et puis, on s'est dit que finalement, il fallait qu'on l'organise nous-mêmes. Donc, bon, ça a été moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je pense, parce qu'il y avait tellement d'envie de se retrouver à ce moment-là, ce soir-là, ouais, que c'était assez très facile à organiser finalement.
Et là, je vais parler à mes collègues qui sont ici, professeur Pascal et Daniel Issa-Sayeg. Il y a beaucoup d'associations françaises, francophones à Toronto. Comment expliquer que ces gens... Je ne sais pas, je ne veux pas critiquer, mais j'ai pas entendu grand-chose de la part de ces gens. Et voilà, ça prend quelqu'un qui vient d'arriver sur notre territoire et tout d'un coup, spontanément, organise quelque chose avec grand succès parce qu'il y avait plus de 100 personnes, je pense, mercredi soir, n'est-ce pas, Florent?
On avait 350 inscrits. Ah. Après, ça n'a pas fait vraiment le décompte hein, sur place, mais c'est vrai qu'en bas du consulat, c'était noir de monde.
Oui, effectivement, il faut rendre hommage aux gens qui se sont déplacés par un soir où il faisait moins 20 et venteux, un temps venteux sur la rue Bloor.
Oui, bon, ici à Montréal, à Toronto et dans d'autres villes au Canada également.
Oui, je crois juste dans les provinces maritimes, il y a eu aussi des manifestations, des témoignages plutôt, de soutien pour les familles et ce qui s'est passé en France, à Halifax et partout ailleurs.
À Montréal, hein, aussi.
À Montréal aussi.
Le maire, Monsieur Coderre, pas de lien de parenté, et était avec le consul général de France à Montréal. C'était très émouvant. Et là aussi, il faisait moins 31, je pense, moins 32 degrés avec facteur vent, moins 50 peut-être. Florent, ce qu'il faut aussi apprécier, d'ailleurs, félicitations pour cette initiative et au nom de tous les auditeurs, les auditrices, le conseil d'administration, on est chapeau à vous et pour votre courage. Et je pense que même les médias anglophones ont repris l'événement dans la soirée, au courant de la soirée, le lendemain.
Hein. Oui, il y a eu beaucoup de couverture médiatique par rapport à cet événement, par rapport aux événements en France. Donc je pense qu'il y avait aussi un intérêt de couvrir sous un angle local les événements. Donc on a été beaucoup sollicités, on l'est toujours d'ailleurs, aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, je pense.
Oui, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est une grande manifestation à l'Hôtel de Ville de Toronto, au cœur du centre-ville de Toronto.
Voilà, exactement. Donc à 2 heures, on va tous se retrouver sur la place de l'Hôtel de Ville, Je suis en train de confirmer la présence du maire qui sera avec nous. Mais donc on appelle toutes les communautés, tous les habitants de Toronto à venir nous joindre pour honorer les victimes déjà, et puis ensuite pour réaffirmer nos valeurs de liberté et principalement de liberté de la presse et d'expression.
Et ce que je trouve formidable, le profil des gens qui participaient à la soirée de mercredi, ce n'était pas nécessairement tous français. Il y avait aussi des Portugais, des Italiens, des anglophones, des francophiles, enfin des gens de tous les horizons. Hein.
Je pense que oui, j'ai discuté avec... d'ailleurs, on a fait un appel dès le départ pour que ce ne soit pas un regroupement pour des Français, mais que justement, il y avait un réel besoin d'autres communautés de participer à ces événements, hein, puisqu'ils se sentaient également touchés, et je pense que c'est essentiellement parce que la liberté d'expression est une valeur tellement universelle et un droit de l'homme qu'on pensait acquis, mais pour lequel il faut toujours se battre, et ils voulaient être là pour nous témoigner en fait leur amitié et leur solidarité.
Quels étaient les commentaires, les réactions des gens? Est-ce qu'il y avait des petits discours et des réactions ce soir-là?
Pendant la soirée, en fait, on n'a pas eu beaucoup de discours, parce que je pense que tout le monde était tellement dans le choc qu'on avait juste besoin de se regrouper, d'être ensemble et de partager ce moment-là, et qu'on n'avait pas spécialement envie de parler. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être plus envie de parler que mercredi, parce qu'on sait que maintenant c'est fini, en tout cas pour cet épisode-là. Mais je pense que c'est important de montrer qu'on est tous ensemble dans ces moments-là, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera à l'avenir. On espère que ça n'arrivera plus. Malheureusement, on ne peut jamais le prévoir. Mais on peut montrer aujourd'hui qu'on est tous ensemble par rapport à ces événements-là.
Florent Guérard, madame, monsieur, l'organisateur de cette manifestation devant l'hôtel de ville de Toronto à 14h aujourd'hui, c'est le métro Queen, si cela vous intéresse. Et Florent, vous m'avez dit que vous n'êtes pas abonné à Charlie Hebdo, vous l'avez même peut-être jamais lu, si je ne m'abuse.
Je ne suis pas abonné à Charlie Hebdo, je n'ai pas acheté Charlie Hebdo, mais je connais Charlie Hebdo, je respecte Charlie Hebdo. J'ai pas partagé toutes les valeurs chez moi aussi. Certaines caricatures ont provoqué des débats pour savoir si c'était approprié ou pas. Mais c'est vrai qu'à la fin, on regarde tous, on respectait tous Charlie Hebdo, parce que même si on ne pouvait ne pas être d'accord avec leurs idées, on respectait leur liberté d'expression et on savait qu'ils se battaient pour quelque chose. Qui était plus important que la polémique. Et c'est pour ça que je me suis senti touché quand j'ai appris les événements mercredi.
Est-ce que, en tant que jeune français, originaire de Lyon, grandissant en France, est-ce que vous voyez venir? Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait un malaise? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs de cet attentat de mercredi dernier?
Bah, je pense que c'est malheureusement, ces attaques ne sont pas forcément une surprise, dans la mesure où l'année dernière, on avait déjà quelqu'un qu'on nous avait présenté comme un loup solitaire, qui était Mohamed Merah, et qui a pu commettre des attaques contre des écoles juives à Toulouse. Donc, on est dans la même mouvance, on est dans une période où on a beaucoup de ressortissants français qui sont actuellement en Syrie pour faire le djihad. Et on sait qu'ils vont peut-être revenir à un moment donné. Il y a vraiment un risque que ça puisse se propager. Et je pense que c'est important de mettre un stop maintenant, ou en tout cas de montrer qu'il faut que ça s'arrête.
Vous avez de la famille encore en France, j'imagine. Est-ce que ils ont peur?
Je pense que ils ont du mal encore à s'habituer à ce qui se passe, parce que le vivre au quotidien, c'est pas, il y a l'attention et le malaise est presque permanent en France. Moi, je le vivais déjà quand j'étais là-bas il y a 7 ans, et je sentais déjà ce malaise-là, comme une fracture. Et je sais que c'est allé de pire en pire en fait depuis, et on voit que la montée de du nationalisme en France et en Europe est pas complètement indifférente à cet état de fait. Donc c'est vrai que je suis inquiet et ils sont d'autant plus inquiets qu'ils sont sur place.
Et oui, eh ben, on vous souhaite beaucoup de courage et puis j'espère qu'il y a de l'espoir quand même à travers tout ça, n'est-ce pas, Pascal ?
Eh oui, c'est pour ça qu'on se retrouve tous aujourd'hui.
Oui.
Il y a un besoin, il y a un désir d'être ensemble, de voir que la compagnie des autres peut marcher, peut vous apporter des choses et des sentiments positifs après cette rupture, cette fracture dans le tissu du vivre ensemble, de la vie quotidienne. C'est vraiment important aujourd'hui d'agir en fonction, en réponse à ce sentiment.
Et si vous aviez un message pour terminer, Florent, un message à passer à nos dirigeants, surtout aux politiciens français, si jamais, par hasard, ils découvrent cette émission sur l'Internet, ils peuvent télécharger. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pourrez télécharger l'émission après et l'envoyer à qui vous voulez. Quel serait votre message aujourd'hui ?
Moi, mon message, il est vraiment, c'est le message d'aujourd'hui, c'est le message du rassemblement, c'est un message d'unité où vraiment on peut vivre ensemble avec nos différences. Et c'est vraiment pas impossible. C'est très facile de se diviser. Et je pense que c'est plus compliqué de se réunir et de trouver des solutions ensemble. Mais je pense que c'est ça le message qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, qu'on continue d'avoir. C'est de se battre pour la liberté d'expression et pour le vivre ensemble.
Et aujourd'hui, encore une fois, je rappelle aux gens que vous allez à hashtag Charlie Hebdo Rassemblement à Toronto 11 janvier 2015. Et vous avez eu des commentaires, vous avez des prévisions. Combien de personnes attendez-vous aujourd'hui?
Pour l'instant, on va être à peu près 600 personnes qui sont inscrites pour l'événement. Et puis, on est en train de... Le maire sera présent également. Donc, ce sera... un gros événement, on l'espère.
Et je rappelle aux gens que vous n'êtes pas président d'aucune association, vous êtes simplement un citoyen français sur notre territoire et très ému, très choqué par ce qui se passait et spontanément, vous avez lancé ce mot d'ordre et voilà que ça maintenant reflète d'une façon très positive dans la communauté francophone. Je rappelle aux gens, c'est pas réservé uniquement à des personnes originaires de la France ou bien qui sont d'origine française, mais c'est ouvert à tout le monde, tous les francophones, francophiles, allophones, n'importe qui intéressé par la cause. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous à ne pas rater, madame, monsieur. Et pour être en union avec ce qui se passe à Paris, plus de 1,5 million, me dit-on, d'après les derniers recensements et sondages. Et je pense que aujourd'hui, c'est à notre tour, comme en Italie, comme en Argentine, comme à New York, comme à Washington, comme à Montréal, à Ottawa. Et bien aujourd'hui, c'est à notre tour. On fait appel à notre générosité, mais aussi à notre bonté, et on veut être solidaire. Nous sommes tous Charlie, n'est-ce pas ?
Oui, nous sommes tous Charlie, et marqués aussi de notre tolérance pour la différence et pour le vivre ensemble, comme le disait tout à l'heure Pascal.
Oui, alors merci encore une fois, et si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe avant la fin de l'émission, avant 13h, vous avez nos coordonnées, Florent, vous nous passez un petit coup de fil, et bon courage.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci
de m'avoir eu. Au revoir, Florent. Bonne
chance. Au revoir.
Les 24 heures du roman. Une aventure littéraire et ferroviaire présentée par Écriture en Mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Écriture en aventure avec 24 écrivains dans un train de vie à rail. Ensemble, ils écriront, certains diront que c'est en lisant qu'on devient liseur. De Halifax, Montréal et Toronto, le 400e en Ontario, un parcours de mots. Les 24 heures du roman, un voyage hors du temps. Le 23 octobre 2015, 24 écrivains, incluant des franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens, ensemble, ils vont explorer l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Tout au long de 2015, sur les traces de Samuel de Champlain en Ontario. Les 24 heures du roman, une expérience à la croisée de plusieurs cultures. L'écriture en mouvement, un concept inédit. Les 24 heures du roman, en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, VRI, le Consulat général de France à Toronto, au Pourichaud CUT 89,5 FM. Les voyages en train chez VRI offrent une occasion unique de découvrir l'histoire, la nature et la culture et de se reconnaître mutuellement. N'attendez plus, inscrivez-vous, participez à nos jeux concours et qui sait, vous courez la chance d'être à la fête. Pour tout savoir, pot.pourri@simpatico.ca. Bonne chance et bon voyage.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Je vous rappelle, madame, monsieur, que vous écoutez une émission spéciale. Aujourd'hui, hommage à Charlie Hebdo. Nous sommes tous à Charlie, une émission proposée et présentée par Eric Tader et DJ Devera. Et nous remercions la participation de professeur Pascal Melucci et professeur Daniel Issa-Sayeg. Et aussi le général, le consul général de France qui sera des nôtres dans un instant. Pour nous joindre tout au long de l'émission, si vous désirez démettre des commentaires, des perspectives, vous nous envoyez un message à pot.pourri@simpatico.ca ou encore 416-946-7000.
Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. Ils avaient marqué par leur influence, par leur insolence, par leur indépendance des générations et des générations de Français. Je veux ici leur dire que ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. Ce lâche attentat a également tué 2 policiers, ceux-là même qui étaient chargés de protéger Charlie Hebdo et la rédaction de ce journal qui était menacé depuis des années par l'obscurantisme et qui défendait la liberté d'expression. Ces hommes, cette femme, sont morts.
Et oui, madame, monsieur, vous avez reconnu, c'était le président François Hollande, président français, juste après l'attentat. D'ailleurs, Pascal, il est rendu sur place à beaucoup de risques. Hein. Quelques minutes après l'attentat, oui, il était déjà sur place.
Je dois dire, la réponse du gouvernement a été immédiate. Pas d'hésitation. Tout de suite, ils se sont mobilisés. Les forces policières sont intervenues de façon vraiment spectaculaire, avec un professionnalisme exemplaire.
Et je vous rappelle, madame, monsieur, qu'un registre de condoléances a été ouvert au public au Consulat général de France à Toronto. Et ils sont situés à 2 rue Bloor Est, et vous pouvez y aller lundi à partir de 9h jusqu'à 16h30. Si cela vous intéresse, vous allez encore sur le site web du Consulat général de France à Toronto. Vous pouvez aussi adresser vos messages de solidarité, de sympathie à l'adresse suivante, presse@consulfrance-toronto.org. Et le Consulat général de France à Toronto remercie sincèrement toutes les personnes qui s'associent au deuil de la France par la pensée, l'envoi de fleurs et de messages de soutien et de solidarité. La marche républicaine est en cours ce dimanche 11 janvier, qui réunit pas mal de dirigeants, les grands de ce monde. Et à Paris, aux côtés du président français François Hollande, il y a aussi la chancelière Angela Merkel, le premier ministre britannique David Cameron, mais aussi le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, ou encore des dirigeants de la Ligue arabe. Il y a aussi le président de Israël, mais aussi Mahmoud Abbas, et de la Palestine. Il fallait le faire. Hein. Alors, pour nous partager les couleurs de cette marche républicaine à Paris, qui se déroule en ce moment, nous avons le plaisir, madame, monsieur, de recevoir en exclusivité le consul général de France à Toronto, monsieur Jean-François Cazabonne-Mazonave. Bonjour.
Oui, bonjour Eric, ça va?
Ça va très bien. Tout d'abord, nos condoléances dans ces moments difficiles. Et je suis ici en compagnie avec professeur Pascal Melucci, mais aussi professeur Daniel Issa-Sayeg, qui m'aide à animer cette émission. Et vous êtes en France. C'était une visite prévue avant les attentats, n'est-ce pas?
Oui, absolument, professionnel et privé.
Oui.
Je suis parti de Toronto juste après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo.
Comment avez-vous réagi face à ce carnage qui s'est déroulé à Paris cette semaine?
Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pense que j'ai réagi comme tout le monde, c'est-à-dire il y a un partage d'hébétitude, d'accablement, de tristesse. De colère aussi, bien sûr. Et puis, évidemment, comme consul à Toronto, je me suis demandé ce que je devais faire, ce que j'avais le temps de faire avant mon départ. Et puis, je continue de suivre, bien sûr, avec mes collaborateurs, tout ce qui se passe à Toronto, parce que je crois que c'est important que tous ceux qui, et toutes celles qui se sentent concernés, qui veulent réagir, puissent sentir cette solidarité aussi qui s'exprime aujourd'hui.
On a eu d'ailleurs, juste avant vous, un jeune Florent Guérard qui organise une marche, une manifestation. D'ailleurs, ouais. Il me dit qu'il y a environ 600 personnes qui seront au rendez-vous. Bien. Même le maire de Toronto a promis d'être présent. Et je trouve ça formidable, cet élan de solidarité. Et cela ne concerne pas seulement les Français, mais tout le monde, tous les êtres humains qui veulent qu'il y ait une diversité dans notre paysage audiovisuel, la liberté de la presse. Et vous êtes dans cette marche. Comment réagissent les gens autour de vous aujourd'hui?
Je viens de la quitter, là, je suis revenu chez moi. Mais en fait, j'habite près de la place de la République, donc j'y suis allé deux fois, en fait. Oui. Et je crois que les gens sont très déterminés, c'est ce qui m'a semblé. Ressentir surtout la détermination à exprimer leur refus de ce qui s'est passé et leur volonté de vivre ensemble. C'est quelque chose qui est très fort, je crois, aujourd'hui.
Oui. Ouais. Et vous avez les médias du monde entier, hein, parlent de Paris aujourd'hui. Ouais. Paris, c'est la capitale du monde aujourd'hui.
Oui, c'est assez impressionnant, bien sûr.
Oui. Et sentez-vous, parlez avec vos collègues, les membres de votre famille, est-ce que vous sentez, monsieur le consul, comme il y a de la peur qui s'installe chez les Français aujourd'hui après ces événements?
De la peur, je dirais pas ça, mais de l'inquiétude, certainement. Mmh. De l'inquiétude et aussi, mais c'est ce qu'expriment les gens dans la rue, la volonté de réagir et de refuser ça, c'est-à-dire pas de rester les bras croisés devant sa télévision. Hein. Ce qui est très frappant, c'est que chacun est personnellement concerné et veut agir. C'est ça le sens de ces manifestations.
Oui.
Donc il y a à la fois l'inquiétude, mais il y a aussi une mobilisation qui est très forte et qui est réconfortante de ce point de vue-là.
Nous respectons beaucoup le travail qui se fait au consulat. Vous avez, avant d'arriver à Toronto, traversé ou voyagé, vécu, travaillé en Tunisie. Là aussi, oui. C'était des situations assez difficiles des fois. Est-ce que cette expérience en Tunisie vous apporte ou vous rappelle quelques souvenirs peut-être négatifs de ce que vous avez connu?
En fait, j'étais en Tunisie avant la révolution, hein, mais il y avait bien sûr des enjeux de sécurité de cette époque qui étaient très importants et dont j'avais la charge. Mais non, mon expérience en Tunisie, c'est surtout d'avoir vécu 3 ans dans un pays essentiellement musulman, mais une population qui est profondément sereine, pacifiste, et de ce point de vue-là, je n'ai jamais ressenti... au contraire, mon expérience, c'est un sentiment d'humanité partout, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures. Moi, ce que je ressens dans les pays où j'ai l'occasion de vivre, y compris la Tunisie, c'est ce sentiment d'appartenir à la même humanité et de partager, en fait, les mêmes préoccupations et la même volonté de paix.
Faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui sont très attachés à la langue française.
C'est vrai,
oui. Bien sûr. Et on voit le déferlement des manifestations à travers le monde entier, dans des zones anglophones, à Londres par exemple, ou même à Washington. Le secrétaire d'État des États-Unis, Monsieur John Kerry, qui a même osé faire un discours uniquement en français. Je pense que ça, on a surpris pas mal nos collègues de médias à RFI et France 24, parce que là, tout d'un coup, on sent il y a comme cette volonté de dire on est français pour une journée, on est français pour toujours. Et même ceux qui n'ont jamais connu les revues, les magazines de Charlie Hebdo, ils disent nous sommes Charlie, je suis Charlie. Comment expliquer cet engouement envers ce magazine, mais aussi envers la France?
Je ne pense pas que ce soit exactement le magazine, parce que c'était un magazine, et c'est toujours un magazine controversé, audacieux, irrévérencieux. Et chacun, tout le monde, moi-même, j'ai pu être choqué parfois par certaines de leurs dessins ou de leur couverture, mais ce n'est pas la question. La question qui s'exprime là, c'est on veut empêcher la liberté d'expression et de descendre dans la rue pour dire non. Et John Kerry et bien d'autres personnalités expriment leur refus de cette agression, de cet attentat. Et il n'y a pas que Charlie Hebdo d'ailleurs, hein, il faut bien le dire, il y a aussi la communauté juive qui a été visée, il y a aussi les services de sécurité publique qui ont été directement agressés. Et d'ailleurs, ça fait partie des événements de cette journée, les gens expriment leur reconnaissance envers la police et la gendarmerie qui assurent la sécurité des manifestations. Et donc voilà, je pense que c'est une réaction à un geste de violence inouïe. Et cette réaction, elle dépasse d'une certaine manière le message que Charlie Hebdo a porté un peu seul peut-être pendant longtemps et qui est celui de la liberté d'expression. Je pense que c'est ça que John Kerry exprime quand il parle en français aussi, c'est cette solidarité.
Oui.
Je le disais tout à l'heure, cette humanité qui nous est commune et à laquelle on veut nous faire croire qu'elle doit se diviser et se fractionner.
Monsieur le consul, est-ce que j'ai eu l'information suivante que le président Hollande s'est rendu auprès de la famille du jeune policier d'origine musulmane après la marche. Et là aussi, c'est un signe très fort parce que c'est tout le monde, en fait, qui a été visé. C'est tout le tissu de la société française qui a été visé. Musulmans, juifs, forces de l'ordre, journalistes, donc tous les symboles de notre vivre ensemble ont été attaqués aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la même chose?
Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est très manifeste et c'est ce que tout le monde ressent. C'est-à-dire que tel et tel groupe ou personne ont été visés. Mais en fait, nous sommes tous, nous, et en descendant dans la rue, nous disons, nous sommes tous visés et nous nous dressons contre cette violence. Et je crois, je n'ai pas suivi dans le détail parce que j'étais dehors, mais je crois que le président de la République a salué en fait l'ensemble des familles des victimes, hein, et, y compris donc celle de cet agent de police qui a été assassiné.
Je rappelle aux gens que nous sommes en direct avec le consul général de France à Toronto, Monsieur Mazonave. Et pour terminer, vous avez un message à lancer à vos ressortissants, vos amis, vos confrères, les fonctionnaires qui nous écoutent en ce moment du consulat général de France à Toronto. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre actuellement pour les fonctionnaires et pour les ressortissants français, surtout à l'étranger?
Moi, je veux d'abord remercier toutes les manifestations de sympathie, de solidarité que nous recevons, qui sont très importantes. Hein, et c'est la première chose. Je crois que c'est un moment où il faut se recueillir, mais il faut aussi se rassembler et exprimer cette solidarité et cette volonté de vivre ensemble. C'est très important. Donc, merci à toutes et à tous. Nous n'avons pas de consigne particulière, et j'en ai parlé avec mes collaborateurs et mon adjoint sur l'intérim, Dominique Faye. Nous avons un devoir de vigilance particulière, mais dans la mise en œuvre de consignes de sécurité qui sont habituelles. Donc je crois qu'il faut, surtout au Canada par exemple, il faut faire confiance absolument aux services de sécurité canadiens avec lesquels nous travaillons et nous coopérons. Et puis il faut surtout éviter de céder à la peur, parce que c'est bien l'objectif et ce serait la victoire de ces terroristes que de céder à la peur. Donc il faut garder la tête froide et être très déterminé et très solidaire.
Monsieur Mazonave, de la part de toute l'équipe, je ne sais pas si mes collègues ont un dernier mot à dire, mais on vous remercie sincèrement et on vous souhaite bon courage. J'espère que la prochaine fois, nous serons en ondes dans des moments, enfin, plus, comment dirais-je,
moins tristes.
Moins tristes.
Plus légers.
Plus ouais. Légers, voilà. Ouais. Alors, bon courage et puis merci pour tout ce que vous faites ici à Toronto, pour nous, la communauté francophone, les artistes, les gens de la radio, les écrivains. Vous êtes très impliqués et on vous félicite et puis continuez votre bon travail. Gentil. Nous sommes de votre côté, à côté de vous c'est et gentil. Avec vous.
Merci beaucoup.
Et nous
merci.
Sommes tous Charlie aujourd'hui.
C'est vrai. Merci
allez,
beaucoup.
Au revoir et bon revoir. Séjour en France.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Je suis Charlie. Nous sommes tous Charlie. De poignées, de terre, pas de fleurs, pas de curé. Tu es parti, mon frère, boire ton dernier verre, ce long grand bas de l'éternité. Nos deux solitudes avaient l'habitude de vivre de semblant de vie. Les flics et leurs cris, le vin et les filles, c'est fini. Salut Charlie. J'irai dans les bars où nous allions le soir pour dire que tu ne viendras plus. Je boirai dans ton verre, du haut de ton enfer, tu me verras peut-être pleurer. Il nous reste le monde, plein de brunes et de blondes, mais sans l'ombre d'une amitié. Nos rires et nos bagarres, nos misères et nos gloires, c'est fini. Salut Charlie, et je boirai pour deux à la santé des filles, et je boirai pour deux comme avant quand on était tout. Salut Charlie, l'amitié en guenille était ma seule famille. Grâce à toi je m'en étais tiré. Ton chien qui te cherche avec son cœur en laisse. Bien sûr, je ne vais pas le laisser. Je vais payer tes dettes et puis casser la tête à ceux qui te l'ont trop cassé. Nos cuites et nos histoires, nos rires et nos bagarres, c'est fini. Salut Charlie.
Hi, this is John Valentine. Each and every week, I keep you informed and entertained with the latest news and music from the blues community, both here and abroad. So tune in on Thursday afternoons, beginning at 4 p.m. for John Valentine's Blues, for your window into the blues scene today. Only on CIUT 89.5 FM.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez une émission spéciale sur Potpourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Aujourd'hui, hommage à Charlie, Charlie Hebdo. Nous sommes tous Charlie. Une émission proposée et présentée par Eric Adair et DJ Dovera. Et nos collaborateurs Radio France Internationale, France 24, à le département d'études françaises à l'Université de Toronto. Et nous avons le plaisir d'avoir comme co-animateur professeur Pascal Melucci et docteur professeur Daniel Issa-Sayeg. Et nous remercions la collaboration du consulat général de France à Toronto et aussi hashtag Charlie Hebdo, rassemblement à Toronto, 11 janvier 2015, à ne pas rater, à partir de 14h devant l'hôtel de ville de Toronto. Dans un instant, nous allons poursuivre avec les commentaires et les réactions des internautes, des auditeurs, des journalistes, des poètes, des écrivains. Et Pascal, nous commençons avec vous. Qu'est-ce que vous avez retracé, repéré sur la toile ?
Ben, j'ai vu un document qui nous montre des humoristes, des comédiens, des auteurs, des managers, des metteurs en scène ont été consultés, et de générations, d'origines, d'univers humoristiques différents. Ils se sont tous rassemblés dans l'émotion consécutive à l'attentat contre Charlie Hebdo et à l'épicerie cachère de Vincennes. Pour manifester contre cet acte barbare, le blog Femme qui rit leur a demandé de lever leurs crayons et leurs plumes et soit de répondre par clavier pour écrire ou dessiner un hommage à tous ceux qui sont tombés au champ d'horreur. Mmh. Et donc j'ai un témoignage d'Amandine Gay, qui est comédienne et humoriste, et donc elle écrit « Comme beaucoup de monde, je suis bouleversée par les épreuves que traverse le pays. Comme les mots me manquent, je préfère me réfugier derrière ceux du grand Paul Éluard, tiré de son poème « Liberté ». Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Car si nous sommes tous Charlie aujourd'hui, n'oublions pas de l'être encore demain. »
Très bien. Nous allons passer un court extrait avant. Il y a un invité qui vient de nous appeler, qui est avec nous, mais professeur Issa Sayek, je pense que vous avez aussi quelques réactions.
Oui, j'ai la réaction de Fabrice Laurent, qui est le président de la Fédération des Festivals d'Humour, et bien sûr, la fédération dont il est le président s'associe à toutes les manifestations d'hommage qui ont lieu aujourd'hui et exprime son indignation et à l'abominable attentat du 7 janvier qui a été perpétré contre Charlie Hebdo. Et il tient à affirmer que les festivals d'humour doivent mener cette résistance face à la menace terroriste, mais aussi à toutes les formes d'obscurantisme. Mmh. Et que ça rejoint un peu ce que vient de lire Pascal, que la parole doit rester libre, porteuse d'idées et d'humanité. Donc, aucune autocensure pour les artistes, quelle que soit leur
allégeance. Alors, les journaux français sont en deuil du noir, des dessins, des hommages. Depuis jeudi, la presse française met à la une des choix forts en hommage aux victimes de l'attentat qui a fait 12 morts mercredi. Mais aussi, on faut pas oublier hein, les personnes qui sont tombées sous les balles dans cet hypermarché. Alors, c'est bizarre. Hein, on va faire ses courses dans un hypermarché et puis on est pris dans un truc pareil. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je vous rappelle que les Français, même au Québec, il y a plusieurs journaux, il y a 12 journaux québécois qui ont publié une caricature controversée de Charlie Hebdo jeudi. Ils ont pris vraiment le risque. Il ne s'est rien passé, autant que je sache. Je vous rappelle, madame, monsieur, que les Français, et surtout les jeunes Français, ont un attachement particulier pour le Canada. De plus en plus, on voit qu'ils sont nombreux sur notre territoire. Et je dis bien pour le Canada, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de Français qui sont à Toronto. Oui, il y en a qui vont toujours à Montréal, au Québec, on le sait. Mais nous sommes très fiers de les accueillir à Toronto, la ville reine qui accueille des centaines de jeunes PVTistes des familles françaises à chaque année. Comment se passe l'intégration? Sommes-nous trop puritains pour certains Français qui m'ont dit que les Torontois, des fois, n'ont pas le sens de l'humour? Alors, je ne sais pas vous ce que vous avez constaté, mais des fois, on nous trouve très sérieux. On fait toujours très attention, politiquement correct, comme on dit. Alors, Français du Monde, Toronto est une association regroupant les Français et les francophones ayant en commun l'amour de la France et de la francophonie. Français du Monde, Toronto a comme objectif de réunir et de souhaiter de soutenir les Français de Toronto et de permettre des échanges avec toutes les structures françaises et francophones de la ville de Toronto. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de rencontrer les membres de cette association, mais aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir notre partenaire et il est président de Français du Monde de Toronto, Monsieur Gérard Poupé. Bonjour Monsieur Poupé.
Bonjour Eric et merci pour votre accueil et félicitations à toute l'équipe pour tout ce que vous avez entrepris autour de cette affaire et ce grand deuil national et international et merci pour nous laisser la parole.
Eh ben, nos condoléances d'abord. Nous sommes vraiment très attristés et parce que c'est la francophonie dans son ensemble, mais c'est aussi, comme on a dit, même si on n'est pas francophone, on se sent affecté par ces attentats. Où étiez-vous, Monsieur Poupé, quand ça s'est déroulé mercredi?
Bien, j'étais à Toronto et j'étais en ligne et j'ai un ami avec le décalage horaire de France qui m'a téléphoné parce que tout le monde était surpris, n'y croyait pas et c'était un grand choc. Bon, c'était pas à l'échelle du 11 septembre, mais toute proportion gardée, et les cibles et le message est le même. Donc voilà, donc on a suivi et bon, je dois dire que au-delà maintenant la manif à Paris, pas la manif, c'était pas une manifestation, mais une marche de solidarité, d'unité de la nation. Les Français du monde, on pourrait dire que notre objectif aussi, c'est les citoyens du monde, parce que il y aura la paix quand on sera tous citoyens du monde, quand on aura retiré cette notion étroite de nation et quand on va promouvoir pour nous ce qui est important, c'est la laïcité. C'est-à-dire que la religion, oui, chacun choisit sa religion. La laïcité, c'est la tolérance. Ce n'est pas l'anticléricalisme ou l'antireligion, mais les États doivent être laïcs et faire leur travail. Voilà.
Depuis des années, il y a des débats qui sont dans tous les médias, en France, dans les journaux aussi, parce que c'est passé, on ne veut pas faire l'amalgame entre les musulmans et les terroristes. Il faut faire très attention, mais on voit qu'il y a une poussée virulente de la part de certains imams qui veulent installer leur mosquée et même installer le pas seulement la prière pendant les vendredis ou bien certaines heures de la journée, mais ils veulent adopter des territoires afin que ces territoires changent leur attitude face aux femmes, par exemple, face aux, à certaines politiques dans la vie de tous les jours en France. Et on le voit aussi au Québec, au Canada, le hijab, le niqab, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et je pense que vous êtes au courant, il y avait un genre de malaise depuis plusieurs années.
Le malaise est profond en France. La France est un vieux pays par rapport au Canada qui a un passé colonial et il y a plein de choses à assumer. La République a accueilli... quand les Français parlent des Arabes, ils oublient que quand ils disent Arabes, ces Arabes sont Français. Alors donc l'amalgame, il est triste parce qu'il y a amalgame et récupération. Il y a amalgame quand on dit l'islam c'est dangereux, c'est le djihad, et il y a récupération quand des extrémistes veulent récupérer et dire voyez le laxisme de laisser tout faire, on arrive à une situation où l'Occident chrétien est menacé, etc. Ce que je voulais dire, c'est que quand je regarde derrière le passé de l'histoire, les croisés sont allés massacrer les Arabes. Les Français catholiques ont massacré les protestants la nuit de la Saint-Barthélemy. Donc ça, c'était il y a longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le monde n'a pas encore connu la paix, et dans nos valeurs de Français du monde, on voudrait construire la paix. Mais ça demande une citoyenneté au quotidien. C'est très bien ce qui se passe sur les médias, les tweets, la marche, le rassemblement à Toronto, c'est bien. Mais après avoir vu le passé et le présent, et là je lisais ce matin dans le journal, au Pakistan, un pays parmi les musulmans, on a encore tué des victimes innocentes. Donc l'amalgame est facile dans une tension en France, dans une situation en France, où on connaît la crise, le chômage, les problèmes des banlieues, c'est trop facile. Et ce qui gagne en ce moment en France, c'est la simplification. D'ailleurs, je dois dire que nous sommes Français du Canada, et ce qui gagne ici aussi au niveau fédéral, c'est de tout simplifier. Non, on ne peut pas tout simplifier. Tout n'est pas noir et blanc, et il faut des nuances. Et les nuances, c'est justement les crayons de couleur de Charlie Hebdo. Et ça, c'est quelque chose qui est culturel, qui va certainement mal passer au Canada, parce que la satire, on va dire, le dessin est raciste, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en regardant l'éclairage du passé, le présent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, quel va être le futur? Est-ce que les Français de France, dans les banlieues, vont attaquer les mosquées? Est-ce que les musulmans extrémistes vont attaquer les épiceries juives ou les élèves ou se moquer des élèves qui portent leur coiffe il y a si le président sait saisir l'instant, il y a une grande mission de la République à installer maintenant. C'est-à-dire que c'est tolérance zéro sur tout racisme, toute xénophobie et toute violence. Et là, les gens défilent dans la rue, mais demain, il faut penser à que chaque citoyen au travail, dans le métro, dans les bus, doit parler, informer et savoir dire non quand quelqu'un affirme. Ils sont tous, les musulmans sont tous pareils, les arabes en France, il faut savoir dire non. Et je me souviens de discussions en France autour de la table avec des amis que j'aime, mais quand ils parlaient d'autres noms et de qualifier les arabes de France, il faut arrêter toutes ces formes de racisme. Et la présence aujourd'hui à Paris du ministre israélien, des ministres de pays européens, européens et étrangers montrent que c'est pas seulement un problème de la France, de l'Europe, de l'Occident, et nous sommes dans une situation où nous sommes en guerre contre l'État islamique, et l'État islamique et ses extrémistes ne frappent pas seulement la France ou d'autres pays parce qu'on ne sait pas quel est le futur, mais ils frappent aveuglément comme des barbares, et quels sont les moyens que nous aurons.
Je rappelle aux gens que je suis en compagnie avec Gérard Poupé-Hill, oui, qui est président de Français du Monde à Toronto. Et d'ailleurs, avec mes collègues ici, professeur Pascal et Daniel, ce que j'entends dans les médias, il y a des ressortissants français qui étaient déjà au courant qu'il y avait des armes bien cachées, des ammunitions pour faire des explosions, mais ils ne sont pas allés à la police pour dénoncer ces personnes. Non. Comment expliquer ça?
Ben, c'est-à-dire que il faut du courage, il faut la peur joue, et vous savez, ça me fait penser, je suis un enfant de l'après-guerre où mes parents et mes grands-parents racontaient l'occupation allemande, et c'est le problème de la collaboration. Qui faut du courage pour se mettre debout et de dire je suis libre? Parce que Jean-Paul Sartre disait « on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande ». C'est-à-dire qu'on n'était pas libre, mais on avait la liberté de dire non au risque de perdre sa vie. Et on est dans un système où, justement, là, il y a quelque chose d'intéressant dans votre question, parce que le regard sur la police, maintenant, va être tout autre. La police était qualifiée en France de répressive, et etc. Bon, alors... maintenant, on voit que la police a un rôle de protection. J'ai vu à la télé aujourd'hui un monsieur qui avait une pancarte « Je suis juif et je suis Charlie ». Et il y avait un CRS d'origine africaine ou coloré, il était noir. Et il est venu l'embrasser en disant « Voilà, on est fiers de notre police ». Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Tout le monde va... agir ensemble, mais la peur fait que, et je dois dire que là, la démonstration d'aujourd'hui, c'est d'aider ces cas isolés pour dire, ben non, on n'a pas peur. On n'a pas peur et on va agir. Et ensemble, on va être plus fort. Parce que ces cas isolés, de voir ce qui se passe dans les banlieues, c'est risqué. Et ces terroristes-là jouent sur la peur. Et de démontrer qu'on n'a pas peur, et qu'on va agir au quotidien avec des musulmans dans la manif, dans les marches, avec des juifs, avec des catholiques, avec des chrétiens, avec des athées, avec des laïcs, avec tout le monde, c'est la seule solution. C'est comme quand on dit vulgairement l'union fait la force, hein, vous avez pas connu le temps des pieds nickelés, mais c'était le truc, l'union fait la force. C'est vrai que bon, on se sent épaulé, mais... et on n'est pas tout seul.
Alors, pour terminer, Monsieur Poupé, parce que nous avons d'autres intervenants sur la planète, mais je voulais tout simplement rappeler aux gens que même les médias à Toronto, au Canada, ont réagi vivement à ce qui s'est passé en France. Et là, super. Je parle pas seulement des médias anglophones qui ont repris en boucle les événements des attentats de la semaine dernière, mais c'était des médias anglophones. Et ça, je trouve formidable qu'on ait la sympathie, la compréhension. Et j'espère que ici...
C'est formidable, oui, parce que pour nous, les citoyens du monde, les Français du monde, il n'y a pas de barrage de langue, il n'y a pas de barrage de culture, et tout est basé sur l'éducation et la réflexion. Et il faut parler à son voisin, et il faut essayer de se comprendre, et on doit construire un jour la paix. Sinon, l'humanité n'aura jamais progressé.
Monsieur Gérard Poupé-Hill, encore une fois, nos condoléances. Merci d'avoir été des nôtres. Et on continue le dialogue tout au long de l'année. Hein. Je vous souhaite une très bonne année aussi.
Oui, merci. Et encore super pour toute l'implication de l'équipe. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes. Et j'aimerais que les gens pensent à s'engager.
Merci.
Voilà. Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Vous Vous écoutez une émission spéciale hommage à Charlie Hebdo. Nous sommes tous Charlie sur CUT 89,5 FM. Nous bousculons notre programmation habituelle pour céder la place à des partenaires, à des Français, à des francophones, ceux et celles qui veulent partager, réagir aux attentats qui se sont déroulés en France, à Paris, cette semaine qui vient de s'écouler. Et je vous rappelle que notre numéro de téléphone est le 416-946-7000, ou encore pouvez nous envoyer vos messages à pot.pourri@sympatico.ca. Face à la barbarie de l'attentat contre Charlie Hebdo, l'équipe de Popourri Show appelle à la solidarité. Et oui, Monsieur Hill, Poupée Hill, est vraiment très engagé. On voit, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit?
Oui, il faut resserrer les liens entre les différentes communautés et les différentes religions, comme il l'a exprimé, et se sentir avant tout français, appartenir à une seule nation, c'est être français. Ensuite, la religion est pour chacun dans sa vie privée et n'a pas de place dans l'espace public, comme on le dit tout le temps en France, puisque c'est un État laïque, c'est le fondement de la République française et c'est le corps en fait non négociable, à mon avis, de la culture française, la laïcité. Et comme le rappelait Pascal en début d'émission, c'est quand même la laïcité, ça fait la liberté d'expression fait partie de cet engagement de la République française pour maintenir la laïcité dans l'espace public et dans toutes les manifestations culturelles, artistiques. Et en tant que professeur aussi, je suppose que Pascal se sent très interpellé aussi, parce qu'il y a une certaine liberté d'expression au-delà de, si on commence à censurer tout ce que les enseignants doivent dire, enseigner, etc.
J'ai vu un événement dans un journal, on n'en a pas tellement parlé, mais moi ça m'avait vraiment surpris, pas choqué mais surpris. Dans une de vos classes à l'université de Toronto à Mississauga, il y a des jeunes hommes musulmans qui ont demandé de ne pas étudier dans la même classe avec des jeunes filles, avec des étudiantes. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous savez qu'ici au Canada, on a
c'était
des lois
à York,
un peu...
je crois, voilà, l'université de York.
York. Oui. Ah, York. Je m'excuse. Mais ça m'avait vraiment frappé. Et si justement un jour, Pascal, Daniel, dans votre classe, au département d'études françaises à l'université de Toronto, vous avez une requête, une demande de la part d'un étudiant musulman qui vous demande de suivre la classe, mais à condition d'être accommodé, c'est-à-dire d'être dans une classe séparée des femmes.
Non, mais ça fait partie aussi de notre mission d'éducation, d'expliquer pourquoi des choses comme ça ne seraient pas acceptables. C'est pas simplement une requête du point de vue du droit, c'est aussi une nécessité d'avoir un travail de pédagogue, d'expliquer les principes de la tolérance, du respect de l'autre, du respect des autres dans une société qui est occidentale, qui n'est pas
je sais
basée
que pour
sur
le...
la charia, oui, ou sur d'autres choses comme cela.
Je sais que dans la période du Ramadan, il y a certaines écoles publiques qui offrent un coin tranquille, solitaire, pour ceux et celles qui veulent pas aller au cafétéria, par exemple, ou être près de la bouffe. Alors, on leur donne une salle de classe ou bien un endroit tranquille, calme, où ils peuvent prier ou encore se recueillir.
Moi, je trouve qu'il y a eu aussi, c'est peut-être une faute du gouvernement, des gouvernements français depuis une trentaine d'années. On n'a pas justement intégré de façon correcte. On a affirmé des principes sans déployer les moyens pour les mettre en place réellement. On a eu le phénomène des prières de rue partout en France, en particulier à Marseille. On a eu ce débat quasiment hystérique sur le voile et le foulard. Exact. On a eu cette polémique il y a une vingtaine d'années, même sur l'équipe de France de football qui était black, blanc, beurre. Mmh. Des partis politiques comme le Front National qui prennent une ampleur démesurée aujourd'hui, qui ne sont probablement pas représentatifs de la vraie opinion des Français. Donc,
réaction un peu partout à travers le monde, même en Israël. J'aimerais bien vous lire ce que j'entends d'Israël, de la Tunisie, de l'Espagne et d'autres pays. Pas tellement du Maroc, je ne sais pas si vous pouvez retracer ce qui se dit au Maroc, mais par contre nous allons descendre à l'île Maurice parce que là aussi il y a eu un attachement face à la langue française, face à la France, à la francophonie, et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir une personne qui est déjà passée dans le studio d'ailleurs, qui était ici lors d'un festival de films, et Élise Mignot, qui est fondatrice, porteur d'images et du festival Il Court. Bonjour Élise.
Bonjour.
Oui.
Bonsoir.
Alors ici, vous êtes en compagnie avec deux professeurs, Pascal et Daniel, qui sont au département d'études françaises à l'Université de Toronto. Et donc, comment ça s'est passé depuis mercredi? Premièrement, est-ce que c'était un choc pour vous?
Alors, oui, moi, je dois préciser que je suis de nationalité française, que j'habite à Maurice et j'y travaille depuis 5 ans maintenant. Donc forcément, j'ai réagi, j'ai suivi ça de très près. Moi, j'ai été personnellement très choquée par ce qui s'est passé. Et puis pour ce qui est de mon entourage ici à Maurice, j'ai vu aussi les Mauriciens très très concernés, en tout cas par ce qui s'était passé.
Oui. Alors, faut rappeler aux gens que l'île Maurice, c'est un territoire très touristique qui accueille beaucoup de gens à travers la planète, y compris beaucoup de Français. Mais de plus en plus, vous avez quand même une augmentation de la clientèle chinoise, me dit-on. Alors, vous, en tant que fonctionnaire, ex-fonctionnaire de l'État français, vous étiez dans des pays comme des zones à risque, je pense, à un moment donné, n'est-ce pas? Dans des pays musulmans.
Pas du tout. Alors moi, je n'appellerais pas du tout ça des zones à risque. J'ai vécu plusieurs années en Indonésie, mm-hmm. à Jakarta, qui est un pays, une ville que j'aime énormément.
Oui.
Et j'ai travaillé 6 mois au Yémen également, à Sanaa. Oui. Voilà. Donc ça, c'est des pays avec lesquels j'ai un attachement très profond. Et d'ailleurs, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de mes amis indonésiens ou yéménites. Oui. Par rapport aux attentats, et eux aussi étaient Charlie d'un bout à l'autre de la planète. Hein.
Alors vous savez très bien que certains de ces terroristes ont reçu la formation au Yémen.
Oui, 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 c'est ce que je lis dans la presse depuis quelques jours. Mm. Alors moi, je peux parler du Yémen, hein. Je n'y ai passé que 6 mois et c'est une situation... politique que je pourrais pas vraiment décrire. Après, c'est plus par contre des gens que j'ai rencontrés, notamment des artistes avec lesquels j'ai travaillé, des dessinateurs et des peintres justement qui sont eux offusqués par ce qui s'est passé, puis qui sont vraiment en empathie avec la France et les Français sur ces questions.
Est-ce que vous êtes une abonnée ou vous lisez régulièrement Charlie Hebdo?
Non, ici on n'a pas trop accès à Charlie Hebdo, mais par contre c'est vrai que ça m'a remémoré plein de souvenirs, parce que je pense que pour beaucoup de Français, en tout cas, on découvre Charlie. On a découvert Charlie à l'adolescence et on a découvert une certaine liberté de ton, un humour caustique, etc., qui nous a tous marqués, qui nous accompagne aussi dans nos années d'études. C'est quand même un journal que je lisais beaucoup quand j'étais étudiante, voilà. Et depuis, c'est vrai, j'ai pas lu depuis que je vis à l'étranger, j'ai pas vraiment eu accès à Charlie depuis une dizaine d'années, on va dire.
Alors depuis mercredi, je vois d'après le journal Le Mauricien, L'Express et les autres qu'il y a quelques manifestations d'ici et là. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les Mauriciens en général et les médias mauriciens s'organisent pour lancer des marches de solidarité?
Alors il y a eu différents mouvements. Ici, ça se passe beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de commentaires, de discussions, de débats sur jusqu'où va la liberté d'expression, que peut-on dire, etc. Parce qu'ici les choses sont perçues aussi très différemment. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir un peu comment les gens réagissaient, comment ils étaient intéressés par la question. Sur les rassemblements, il y a juste eu un petit rassemblement qui s'est fait à l'Institut français de Maurice le vendredi à midi. Donc il y avait une petite poignée de gens, c'était pas très nombreux, mais c'était pas facile non plus de se libérer un vendredi à midi comme ça, je pense. Et puis aujourd'hui, il y a eu aussi un dépôt de gerbes, etc., toute la journée devant l'ambassade de France. Et là, ça a pas été facilité non plus puisqu'on est en alerte cyclonique là depuis 4 heures de l'après-midi. Donc du coup les gens évitent de se déplacer, il a beaucoup plu toute la journée. Donc j'ai vu des photos de gens qui déposaient et des fleurs et des petits mots, des dessins devant l'ambassade. Mais je pense que ça a bloqué aussi un petit peu les déplacements, en tout cas. Voilà.
Alors, faut rappeler aux gens qu'à l'île Maurice, il y a toute une façon de présenter nos politiciens très haut en couleur, des fois. Et il y a aussi des caricaturistes dans certains journaux, surtout dans la période électorale qui vient de se terminer. C'était assez marrant, je pense, hein, de voir la façon dont on dépeignait certains politiciens avec le jeu de mots et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de risque pour les journalistes mauriciens de continuer dans cette veine-là?
Alors, il y avait dans la presse aujourd'hui, il y avait beaucoup de journaux qui revenaient sur Charlie et sur les attentats français. Et puis, il y avait notamment, ce qui était très intéressant aujourd'hui, dans l'Express dimanche, il y avait une interview croisée de trois dessinateurs, trois caricaturistes. Mmh. Qui travaillent pour en gros les trois grands quotidiens nationaux. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'ils expliquaient qu'ils n'avaient pas du tout la même approche qu'on peut avoir en France et qu'il y avait aussi des sensibilités très fortes ici contre lesquelles il est difficile de dire certaines choses et du coup notamment tout ce qui touche au religieux en fait hein, pour être plus clair, et du coup c'était des terrains sur lesquels d'eux-mêmes ils n'allaient pas, considérant que c'était pas des terrains qui pouvaient
s'aventurer.
Aventurer, voilà. Exactement.
Élise Mignot, fondatrice, porteur d'images et du festival Île Court, vous faites du beau travail en tant que Française. J'espère que l'île Maurice pourra compter longtemps sur vous, votre expérience, votre expertise. Et je pense que vous avez adopté l'île Maurice pour toujours. Hein. Vous ne comptez pas rentrer en France demain, n'est-ce pas?
J'espère que j'ai adopté l'île Maurice et j'espère que l'île Maurice va adopter. Oui, oui.
Allez, je vous remercie infiniment. Merci pour ce témoignage. Hein.
Merci à vous.
Et bonne soirée.
Et bonne émission.
Merci, au revoir. Alors voilà, c'est intéressant.
Hein? Oui, et puis Maurice, il faut dire, c'est comme un petit peu comme le Canada. Voilà, c'est une très société très multiculturelle où il y a une harmonie de vivre ensemble, de vivre entre les cultures. Le mot communauté n'est pas un gros mot comme il l'est en France.
Il faut garder cet équilibre. Hein. C'est ça
le plus difficile.
Oui, ouais. Oui, parce qu'il va avoir toujours certains groupes socio-culturels, religieux, comme on les appelle à l'île Maurice, qui à la veille des élections font du chantage, mais vraiment du chantage auprès des politiciens pour avoir voir ci, pour avoir ça, avoir le monde dans certains ministères et tout ça. On sait comment ça se passe un peu partout. Et c'est ça justement que M. Poupéil disait, il faut qu'à un moment donné, on cesse d'avoir ces étiquettes. Et quand va-t-on un jour dire, nous sommes tous Canadiens, nous sommes tous Français, nous sommes tous... comment ? Parce que nous tous, nous venons de quelque part.
Exactement. Et la première question qu'on nous pose, d'où venez-vous d'ailleurs ?
Justement.
En tant que Canadien.
Que faites-vous comme boulot ? Où travaillez-vous ? Et avec qui sortez-vous? Alors, et c'est vrai aussi, hein, ce que certains m'ont dit, aujourd'hui, c'est peut-être Charlie Hebdo, c'est peut-être un policier, une policière, ou c'est peut-être des juifs, mais demain, ça pourrait être un autre groupe minoritaire.
Exactement.
Hein? Nous écoutons Grand Corps Malade qui a composé exceptionnellement une chanson pour Charlie Hebdo. Nous sommes tous Charlie sur CUT 89,5 FM. Nous allons passer à deux invités qui nous arrivent, mais tout de suite, une petite pause.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5, the sound of your city, Toronto.
Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner, ne subir aucune pression, contre l'obscurantisme avec honneur et insolence. À nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie.
Et oui, madame, monsieur, très belle chanson, hein,
oui.
Pris sur le vif. J'aime bien Grand Corps Malade.
Oui, il a toujours des paroles très percutantes, simples, mais percutantes.
Et vous avez encore d'autres réactions. Nous avons un autre appel d'un monsieur qui est assez atypique. Nous allons rester là. Alors, allez-y, professeur Issa Sayeg.
Alors, j'ai la réaction de quelqu'un qui a écrit « Je suis Charlie, je suis Lulu, je suis Moshe, je suis Sharia, je suis Franz, je suis Miroslav, je suis Simone, je suis Chang, je suis Indira, je suis Augusto, je suis Irico, je suis Brad, je suis Maurice et surtout, je suis libre. »
Ah oui, Irico, c'est moi ça, vous savez, mon nom, oui, ma date de naissance, comment ça s'appelle, l'acte de naissance,
c'est Irico.
Ah oui, mais pour...
C'est pas Enrico.
Non, je ne chante pas. Alors, vous, Pascal?
Oui, moi j'ai un mot toujours du blog Femme qui rit, de Fanny Dupin, qui est manager d'un site humoriste. Nos lèvres scellées, nos stylos confisqués, nos alter-égos sacrifiés. Quelle que soit l'idéologie bafouée, la bêtise humaine ne doit pas oublier nos libertés. Ils ont déchargé sans compter, Charlie est tombé, nos cœurs ont sombré, mais nos valeurs se sont redressées. La violence humaine nous priverait même de nos pensées, le visage fermé devant ces cierges allumés, l'envie de dégueuler sur nos futurs abîmés. Il y a nécessité de rappeler à toutes ces croyances infondées que nos vies humaines sont bien réelles et prouvées et qu'elles ne sont pas à sacrifier en l'honneur des divinités, qu'il est notre droit premier de choisir nos destinées et que si accepter n'est pas chose aisée, alors ignorez et occupez-vous plutôt d'aimer.
Ah, c'est bien. Alors, nous allons passer à un monsieur qui est un peu atypique. Il est organisateur de concerts, il a une compagnie de production qui s'appelle Cyper Production à l'île Maurice. Il a travaillé avec ses artistes pour faire sortir de l'ombre et aller sur la scène, pas seulement mauricienne, mais aussi internationale, y compris à Toronto, l'Allemagne, l'Italie, la France, les pays africains. Il est chinois, mais mauricien dans l'âme est créole dans l'âme. Et c'est là le grand débat avec lui, parce que lors des élections générales à l'île Maurice, il ne pouvait pas tellement voir le racisme, la discrimination, le communalisme. Il a lancé une campagne qui s'appelait « Keep Smiling ». Et puis sur les autos, des autocars, des chariots, il montait pour faire sa propagande. Et il y avait des gens qui suivaient, un peu colorés. Mais enfin, il est avec nous, il est déjà passé à Toronto, madame, monsieur. Il s'appelle Percy Iptong, et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais on voulait quand même avoir son point de vue parce qu'il est cet homme libre-pensé à l'île Maurice et je veux savoir comment il vit la disparition et ses attentats, surtout contre Charlie Hebdo en France cette semaine. Bonjour Percy.
Bonjour, bonsoir plutôt, parce qu'ici il est presque 10h du soir.
Oui, je ne sais pas si vous nous écoutez sur Internet, mais nous sommes en compagnie avec des professeurs de l'Université de Toronto, Pascal et Daniel. Et j'aimerais avoir vos réactions sur le vif, comme ça, depuis mercredi. Comment vivez-vous cette situation
C'est comme partout dans le monde, en fait, ce qui est attaqué, c'est la liberté d'expression. Et à Maurice, bon, c'est un peu différent parce qu'on est un pays quand même assez religieux, assez conservateur, même si économiquement on est assez libre. Et donc, il y a eu une petite manifestation devant l'ambassade, etc. Donc plein de gens, les jeunes surtout, ils ont manifesté « Je suis Charlie, Charlie ». Et puis comme ça, on a eu aussi la contre-vague, minoritaire, il faut le dire, « Je ne suis pas Charlie », et que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux en France aussi. Et là, c'est à mon grand étonnement, j'ai vu que, par exemple, l'Express, le journal, il a publié pas mal de couvertures de Charlie Hebdo, parce que qu'à Maurice, beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, heureusement, j'ai vécu en France, donc je connais très bien depuis Harakiri et depuis la naissance de Charlie Hebdo, donc je vois le côté satirique. Mais la satire ne marche pas vraiment à Maurice, ça choque comme ça choque beaucoup de religieux. Et moi, ce que j'étais étonné, c'est qu'il y a quand même un contre-courant. Même moi, j'ai posté un truc sur Facebook. Et puis, il y a un musulman mauricien qui a commencé à me dire comment on peut... J'ai parlé de Charlie Chaplin qui a fait une satire avec le magnifique film Le Dictateur. Et ce n'est pas pourtant que les nazis ont assassiné Charlie Chaplin. Et là, d'un seul coup, c'est allé en boule de neige. J'étais en train de comparer Mohamed, le prophète, à Adolf Hitler. Donc, pour vous montrer comment, des fois, les petites choses peuvent prendre des mesures terribles dans les îles assez conservatrices. Parce que finalement, c'est en fait, quand ça devient religieux, ce que les gens oublient, dans la liberté d'expression, on peut s'attaquer au pouvoir politique. Mais les gens oublient que les religions aussi sont souvent des pouvoirs dans beaucoup de pays. Et à Maurice, surtout pendant les élections, on l'a vu, c'est les lobbies hindous, les lobbies musulmans qui passent des consignes de vote. Les catholiques aussi, avec les Mauriciens d'origine africaine, les créoles, comme on dit. Et l'Express qui a publié ses couvertures, l'Express a bien dit, l'éditorialiste, nous ne soutenons pas forcément les couvertures et la satire qui peut offenser de Charlie Hebdo, donc nous avons publié que quelques couvertures pour ne pas froisser nos lecteurs, parce qu'ils savent que beaucoup de mentions, vous savez, les églises catholiques sont pleines, les mosquées sont pleines, les temples sont pleines, les pagodes sont pleines, contrairement à l'Europe ou dans les pays du Nord. Et d'un seul coup, on voit des trucs, il y a pas un boycotté l'Express, quelqu'un pirater le site du journal Express. Donc des fois, c'est ni fumée ni raisin, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours relativiser et concentrer sur la liberté d'expression, parce que finalement, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ne rient pas avec la satire et l'humour de Charlie Hebdo.
Oui.
Ce qui est malheureusement, on peut comprendre pour quand les gens sont très religieux au fond, quand ils pensent que... Parce que vous savez, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, la différence, c'est que le pouvoir religieux touche la divinité. Allô ?
Oui, oui, je vous entends.
Donc voilà, donc c'est peut-être ça qu'il faut différencier, parce que finalement, quand la religion est considérée comme un pouvoir politique, et d'ailleurs ça se voit dans le monde entier, et d'ailleurs aujourd'hui c'est beaucoup de pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, c'est le musulman qui tue d'autres musulmans, donc c'est pas une question de religion, parce qu'il faut bien dire ce qui est passé à Charlie Hebdo, c'est une question de liberté, liberté d'expression, liberté d'opinion.
Ouais.
Et c'est sûr qu'on peut ne pas être d'accord comment la façon que les gens s'expriment, d'une façon peut-être caustique ou sarcastique, mais il faut respecter et pas sortir les armes. Il faut que ce soit, comme on dit, ce soit l'encre qui coule et pas le sang qui coule.
Alors Percy,
et
pour terminer...
Moi, Maurice, comme on est très religieux, il y a quand même... moi, j'étais un peu surpris des réactions un peu contraires. Assez
acerbe
aussi, ici,
que j'ai vu. Voilà. Percy, le temps passe, en deux mots seulement. Est-ce que l'île Maurice est à l'abri d'un acte terroriste. Parce que vous, vous connaissez les cultures africaines, les cultures de ces pays, que ce soit de l'Occident ou encore des pays du monde arabe. Et vous voyagez beaucoup, vous étiez en Chine pas très, tellement longtemps, vous nous faites rêver à travers vos pages sur Facebook. En deux mots, est-ce que l'île Maurice est à l'abri?
Je crois que bon, aucun pays n'est à l'abri d'un attentat terroriste, surtout quand il y a une ambassade américaine dans le coin. Ça, c'est déjà... Mais en probabilité, c'est vrai qu'on préférerait attaquer une ambassade américaine à Nairobi ou à Mogadiscio ou en Afrique du Sud. Mais personne n'est à l'abri tant qu'il y a des fanatiques intégristes qui pensent à se battre au nom d'une djihad ou au nom d'un dieu. Personne n'est à l'abri. Mais heureusement, comme on est assez éloigné du continent africain, je crois que de ce côté-là, on a... Par contre, on n'est pas à l'abri d'un conflit ethnique ou religieux, interreligieux, puisque les politiques, toujours, ils exacerbent ce côté-là.
Merci voilà. Infiniment, Percy Iptong, d'avoir participé à cette émission spéciale. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très prochainement. Peut-être vous avez des projets en 2015. On fera une émission avec vous très, très prochainement pour avoir le cœur net de vos projets de 2015. Merci encore de
et
la part de toute l'équipe.
Liberté d'expression de votre radio.
Oui, alors, nous sommes tous Charlie. Merci d'avoir été là.
De rien.
Belgians and visitors from afar joined in Europe's symbolic capital, Brussels, to express support for Charlie Hebdo's Martyrs for Freedom. In a country rich in political satire and cartooning, the atrocity brought a sometimes emotional response from some in the crowd of around 2,000 people.
Days in Lombard Day, my heart is crying.
Alors, BBC était sur place un peu partout en Europe, Euronews aussi. Moi, j'étais vraiment ébahi, renversé de voir, parce que sans même, ça prend un budget pour envoyer des correspondants un peu partout à travers la planète. Même CNN, plusieurs correspondants, des émissions du matin, l'après-midi, tout le monde était sur place, en direct, pour nous donner tous les détails. Et ce qui est encore très, très, très intéressant, dans le passé, il n'y avait pas Internet et des téléphones portables, des tablettes. Il y a une station de télévision d'information continue en France, à Paris, qui était en communication avec un des frères terroristes avant, quelques minutes avant l'assaut. Et ces gens étaient sur l'antenne. C'est quand même incroyable.
Oui, c'est, ça fait un peu une polémique aussi pour les victimes de la prise d'otages dans l'hypermarché. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, parce qu'il y a une femme dont le mari était dans le supermarché qui a dénoncé justement BFM d'avoir mis en entrefilé au bas de l'émission qui était en direct, qu'il y avait des personnes qui étaient encore en bas, en sous-sol, avec un bébé qui était là, et que dont là, c'était pas les deux frères, mais c'était Amadi Koulibaly, dont il ignorait l'existence. Alors, elle décriait justement que trop d'informations tuent l'information, parce que ça aurait pu risquer aussi la vie des cinq personnes et de ce bébé.
Je vais revenir sur la famille d'Ahmed Merabet. Vous savez, ce policier qui est tombé. La famille est très, très scandalisée par la une du magazine Le Point. Je ne sais pas si vous avez vu.
Non.
4 jours après l'attentat perpétré contre le journal satirique à Charlie Hebdo, la famille d'Ahmed Merabet, le policier blessé et lâchement achevé par les terroristes, a décidé samedi de sortir de son silence pour appeler au calme. Ahmed, français d'origine algérienne et de confession musulmane, était très fier de représenter la police française et les valeurs de la République française, a d'emblée martelé son frère Malek lors d'une conférence de presse hier. Choqué par les propos qu'elle a pu lire ici et là, et notamment sur les réseaux sociaux, la famille Merabet a tenu à s'adresser à tous les racistes, islamophobes et antisémites pour leur dire « il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Arrêtez de faire des amalgames. » C'est fort.
Oui, c'est très fort. Et je crois que c'est pour cette raison peut-être que le président Hollande aujourd'hui a tenu vraiment à saluer personnellement la famille qui était là, présente après la marche de tous les dignitaires, de tous les représentants des différents pays.
L'attaque contre Charlie Hebdo et les événements en France marquent-ils un tournant dans la stratégie du terrorisme islamiste visant le monde occidental? Beaucoup de questions, hein, même dans les forces de sécurité, on admet qu'il y a eu des failles, on admet qu'ils n'ont pas toujours été à l'affût. Et je pourrais vous lire, malheureusement le temps passe, et celui qui a écrit « Iconoclaste et chantre du transculturel » en 1996 aux éditions du Nordir à Hearst, en Ontario. Mesdames, Messieurs, accueillons le professeur émérite, professeur, mais aussi poète, nouvelliste universitaire et fondateur du Centre Canada, du Centre du Maghreb et à l'Université de York. Bonjour, professeur Eddie Bouraoui.
Bonjour, Eric. Oui. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Nous avons malheureusement quelques petites minutes, mais on voulait absolument vous avoir parce que vous êtes un peu comme ce sage, ce mentor de l'émission, et on voulait terminer l'émission avec vos conseils, votre regard en tant que sage, si on peut.
Ouais, je sais pas.
Et vous qui avez vécu en Tunisie, vous avez vu l'évolution de la France parce que vous avez un pied-à-terre à Paris, et vous êtes canadien, vous êtes sur les différents continents régulièrement. Professeur Bouraoui, comment expliquer qu'on est rendu là? Est-ce que vous voyez venir ces événements que nous avons assistés, ces événements malheureux cette semaine en France?
Oui, je dois te dire d'abord, Eric, que d'abord, oui, je suis Charlie, nous sommes tous Charlie, d'accord? Ceci dit, j'ai vu venir ça dans le sens où parfois il y a beaucoup d'amalgames, etc. Mais l'essentiel, c'est que il faut qu'il y ait la liberté d'expression un peu partout à travers le monde. La marche d'aujourd'hui républicaine est un signe d'espoir. Un signe d'espoir, mais il faut toujours se rappeler que il ne faut pas être laxiste avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se passe. L'espoir est de nous unir tous, et que ce soit un juif, un musulman, un chrétien, un agnostique, un bouddhiste, peu importe la religion, parce que la religion, d'abord, est une affaire personnelle. Elle ne doit pas intervenir dans la sphère publique. Et c'est pour cela que le mot laïcité est un mot très important dans tout ce qui s'est passé. Je suis en deuil parce que ce qui s'est passé ces trois derniers jours. Parmi les 12 caricaturistes, il y avait une femme qui est née à Sfax, c'est Elsa Kayat, qui a été tuée froidement. Et Georges Volinsky, qui est aussi tunisien, né en Tunisie, et qui a écrit « Je ne voudrais pas mourir idiot », et sur lequel j'avais écrit un article dans le temps, dans les années 68. Non seulement je suis en deuil pour ces personnes-là et pour les 27 personnes tuées pendant ces événements, c'est la marche d'aujourd'hui où il y a eu des représentants de tous les pays, et inclus les pays musulmans, dont la Tunisie et l'Algérie. Je regrette que le Maroc ne soit pas présent, mais il faut comprendre que le roi du Maroc est le représentant du prophète, et que peut-être ça aurait offensé la communauté international. Tout le monde aujourd'hui s'est levé pour dire non au terrorisme, pour dire oui à la liberté d'expression, pour dire oui à la liberté, fraternité, égalité, fraternité, la devise de la France qui a été créée à partir de la révolution de 1789, et que nous devons tous vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix, parce que c'est le seul moyen de vivre en paix. Voilà.
Eh oui. Ben, je vous remercie infiniment. C'est très fort comme message, n'est-ce pas, Pascal, professeur Issa Sayeg?
Oui, moi, je suis d'accord avec Eddy Bouraoui. Je me sens.
Un peu plus fort, Eric.
Je suis Charlie aujourd'hui, mais je me dis aussi que je suis juif de France, je suis musulman de France.
Oui.
J'ai beaucoup de compassion, de sympathie dans le sens fort vis-à-vis de leur situation aujourd'hui dans une. Devant ce raz-de-marée, cette levée de boucliers de tout le monde, je pense qu'il faut quand même aussi penser à ces gens qui sont juifs et musulmans en France et qui doivent aussi eux vivre ensemble, et c'est pas facile pour eux non plus.
Oui. Professeur Issa Sayeg, face aux réactions de l'allocution du professeur Bouraoui.
Écoutez, je souscris entièrement à sa vision des choses, parce que moi-même, comme Eddy, nous le savons, nous sommes d'origine du Moyen-Orient pour moi, et lui d'Afrique du Nord. Donc c'est pas toujours évident, mais il faut dépasser justement ces différences et essayer de tendre la main à chacun, à chaque communauté. Et comme le disait Pascal tout de suite, on est tous quelque part musulmans aujourd'hui, juifs, soldats, policiers, dessinateurs, artistes, pour que vive justement cette liberté d'expression qui est au sein même de notre vouloir vivre ensemble.
Mmh. Alors, je vous remercie beaucoup, professeur Bouraoui. J'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer régulièrement pendant cette année. Je sais que vous êtes très affecté, comme tout le monde ici, et encore nos condoléances, surtout quand on a connu des gens avec qui on a travaillé, on a fait des trucs ensemble. C'est pénible, très pénible.
Oui. Oui,
et je sais que vous devez rentrer en France peut-être au mois d'avril, mars, avril, dans ces temps-là.
C'est ça, vers le mois d'avril, j'espère.
Oui. Et je rappelle aux gens que vous êtes né à Sfax, en Tunisie.
Oui.
Donc, tout ce qui s'est passé, ça a une résonance personnelle dans votre vie. Et merci pour la tolérance que vous nous enseignez. Merci pour vos écrits. Merci pour ces voyages interplanétaires. Vous nous proposez des fois des histoires fictives, sans doute, pour certains. Mais en même temps, ce sont des images très réelles qui nous prêchent à la tolérance et le vivre ensemble. Merci pour toute votre contribution à la paix et aussi à l'harmonie et à l'entente. Merci infiniment de la part de toute l'équipe, professeur Bouraoui.
Merci Eric, et merci à toute l'équipe de CIUT, à Pascal, à Daniel, à toute l'équipe, merci beaucoup, et continuez le combat.
Merci
Eddy. Merci Eddy.
Et oui, mesdames, messieurs, voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Peut-être à quelques commentaires avant de terminer, si vous en avez encore, mes chers amis, Pascal et Daniel, vous êtes vraiment formidables. Heureusement que vous êtes à mes côtés pour pouvoir travailler et monter cette émission et coordonner grâce à aussi... DJ Devera, bien sûr. Alors, si vous avez autre chose, Pascal.
Moi, j'ai un commentaire de Mathilde Guyon, qui est directrice du festival Rire en scène. Mmh. Et elle écrit ceci. Même si je ne peux m'empêcher de réaliser que mon enfant va grandir sur un globe gangréné par la barbarie, je veux lui transmettre l'espoir, la vie, en voyant ses élans de ses solidarités. Cette tristesse qui se donne la main en essayant de sourire. Ce refus d'accepter de se taire, cette soif de crier à la terre entière « Liberté !» Je veux surtout lui transmettre l'amour de l'autre. Quant à la directrice d'un festival d'humour, d'amour et de partage, la metteur en scène, je continuerai à faire ce que j'aime et à défendre les valeurs que je souhaite. Je suis libre de vous dire que je suis Charlie et que j'en suis fier.
Merci. Et Daniel, dernier mot de la fin.
Alors, Céline Groussard, comédienne, je me sens encore sonnée par ces derniers jours. Je ne sais pas ce que nous réservent les prochains, mais je nous souhaite paix et amour. Je suis incapable d'écrire, ne serait-ce qu'une ligne sur mon Facebook, et encore moins ailleurs. J'en suis désolée. Je peux juste essayer d'aller faire rire les gens en scène ouverte. Donnons-nous beaucoup d'amour et d'occasion de continuer à rire ensemble.
Je rappelle aux gens que seuls 17%, d'après un dernier sondage hier soir, 17% des Français affirment avoir peur après l'attentat qui ont frappé la France. Et à la question « Lequel de ces sentiments domine le plus chez vous après les derniers événements ?», 61% des personnes interrogées ont répondu « La colère », 49% « La peine », 46% « La solidarité » et 17% « La peur ». Alors, donc, il y a encore de l'espoir. J'espère que les gens n'auront pas peur. Cela ne doit pas nous empêcher de vivre, vivre ensemble. Le mot de la fin, pour ma part, merci, professeur Issa Sayegh, merci, professeur Pascal Melucci, et merci à tous nos invités qui étaient au rendez-vous, Jean-François Casabonne, Mazandave, consul général de France, Florent Guérard, organisateur des manifestations à 14h, ne pas oublier, devant l'hôtel de ville de Toronto, Gérard Poupé, île français du monde, Toronto, Percy Iptong de l'île Maurice, professeur Eddie Bouraoui et Élise Mignot à l'île Maurice. La marche républicaine avec plus de 62 chefs d'État à Paris, les manifestations spontanées à travers le monde nous donnent espoir à la liberté d'expression. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie. Nous sommes des produits de cet enseignement de la liberté, de la tolérance et vous, chers professeurs, amis qui ont forgé nos convictions, mes convictions personnelles, je vous offre ce poème en signe de reconnaissance. La tolérance, c'est effacer les différences, c'est accepter que les autres n'aient pas les mêmes idées que le verbe aimer soit toujours conjugué à tous les modes, à tous les temps, et que seul soit important le sentiment que l'on ressent. La tolérance, c'est le monde entier qui pense que les religions, quel que soit leur nom, n'ont aucune frontière et ne posent pas de barrière, qu'elles nous rassemblent tous en frères et sœurs pour éradiquer la misère et ne servent pas la colère pour déclencher des guerres. La tolérance, c'est savoir donner un sens. C'est savoir trouver les mots pour dire qu'importe la couleur de peau, qu'importe le pays ou le drapeau, que nous soyons laids ou beaux, le sang qui coule dans nos veines est pour tous les hommes, les femmes, le même et comme une immense chaîne nous unira dans nos peines. Voilà la tolérance. Aujourd'hui, demain et pour toujours, nous sommes tous Charlie. Je vous remercie.
Merci Eric, merci Daniel.
Merci à vous.
Au revoir madame, monsieur.
Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités, anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression, contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie, quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie.